Bonsoir à tous. Merci d'être présents aussi nombreux pour la dernière conférence de la saison Thèse en poche de l'année universitaire 2017-2018. Alors, c'est vraiment un grand plaisir, un grand honneur pour moi ce soir d'accueillir le docteur Hugo Laurenceau, docteur en psychiatrie. Nous avons commencé ce cycle de Thèse en poche avec la naissance, puisque nous avions une conférence sur la place du père dans l'allaitement maternel. Et nous clôturons le cycle, cette fois-ci, avec la fin de vie, puisque la conférence du docteur Laurenceau porte sur le vieil homme et la mort. Donc, un titre, évidemment, qui ne peut nous laisser insensibles, puisqu'on pense tout de suite à Hemingway, un clin d'œil littéraire. Nous allons évidemment parler d'un sujet sensible ce soir, qui sera traité avec beaucoup de tact par le docteur Laurenceau, et de sensibilité et de justesse. Donc, nous allons avoir un premier temps de présentation. Le parcours, le sujet de recherche, la méthodologie et puis une version pédagogique de la soutenance. Pour ceux qui ont l'habitude, vous connaissez maintenant le déroulé de ces conférences. Et puis, dans un second temps, ce sera les échanges avec vos questions, revenir un peu sur ce qui a été dit, aller un petit peu plus loin dans le sujet exposé. Et ces échanges seront modérés par le docteur André Rabiazza, spécialiste en médecine générale et intervenant pour le département de médecine générale, là, pour l'université Caen Normandie, qui est présent avec nous ce soir et que je remercie vivement de suivre ce projet de conférence Thèse en poche, puisque ces conférences ne sauraient exister sans notre partenariat avec le département de médecine générale qui nous ont suivis depuis cette mise en place. Voilà, donc nous entrons maintenant dans le vif du sujet, donc je passe la parole au docteur Laurenceau, que je remercie vivement d'être avec nous ce soir.
Merci.
C'est à vous, merci.
Bonsoir à tous, merci d'être là nombreux. Donc je commence ce soir par revenir un peu sur mon parcours et puis après on viendra au vif du sujet sur la thèse. Alors le parcours, ça va être plus pour, je pense, les étudiants, les doctorants, les futurs doctorants. Quelques idées comme ça sur comment on prépare une thèse. Donc moi, je viens de Paris, je fais mes premières années de fac de médecine à Paris 5 Descartes. Je suis arrivé après avoir passé l'internat en 2010 à Caen. Et j'ai soutenu ma thèse en septembre 2017. J'ai mis pas mal de temps, mais voilà, j'ai fini par y arriver. Le parcours de l'internat. L'internat, ça, j'ai enchaîné voilà, le stage, enfin, les gens le savent, c'est 8 stages en tout, 8 semestres, 8 stages de 6 mois à travers le Calvados, donc c'était Bayeux, le CHU, j'ai fait pas mal de stages au CHU. Et à travers voilà, toute la région, notamment le deuxième stage, je suis passé aux urgences psychiatriques, c'est là que j'ai rencontré le docteur Chastan, qui, on verra par la suite, m'a proposé le sujet de cette thèse. voilà, j'ai fini mon internat en 2015, et aujourd'hui, j'ai mis 2 ans, j'ai remplacé pendant 2 ans, et puis ensuite, je finissais en même temps la rédaction de ma thèse. Et aujourd'hui, je suis assistant spécialiste à Maison-Blanche à Paris, un secteur de psychiatrie parisien. Donc rapidement, l'internat de psychiatrie, c'est 2 semestres minimum en pédopsychiatrie, le reste en psychiatrie adulte. Il y a au moins 1 semestre qui était au CHU, moi j'ai passé pas mal de temps. Au niveau de la formation, je trouvais ça intéressant. Les formations théoriques, il y a un certain nombre de séminaires qui sont proposés, avec aussi des formations personnelles via des conférences, des formations, des masters. J'avais fait un master de génétique parce que je trouvais ça intéressant, ça me plaisait. Rien à voir avec la psychiatrie par contre. Et en général, c'est dans ces moments de formation qu'on trouve le sujet qui peut nous plaire, le moment où il va y avoir un petit crush avec une partie de la psychiatrie, quelque chose, voilà. Et alors pour moi, pas du tout. ça ne s'est pas fait comme ça. J'ai rencontré donc le docteur Chastan qui, elle, de son côté, préparait une thèse d'éthique à Paris 5 sur la fin de vie. On avait déjà travaillé un peu ensemble à l'hôpital, c'était plutôt bien passé. Et elle m'a proposé de travailler, d'essayer de construire une thèse autour de la problématique de la fin de vie. Alors moi, c'est vrai que sur le moment, ça a fait écho avec une rencontre que j'avais faite d'une patiente pendant un stage, d'une patiente qu'on va voir par la suite, qui m'avait beaucoup touché, sa demande m'avait beaucoup touché. Et du coup, c'est un peu à ce moment-là qu'on a décidé de travailler autour de la fin de vie, mais des demandes de fin de vie chez des personnes âgées ou très âgées qui n'ont pas forcément de pathologie somatique. Et qu'est-ce qu'on fait? Comment on recueille cette demande-là et qu'est-ce qu'on en fait ensuite? Donc ça, c'est à peu près en mai 2014 où on commence à faire les premières recherches bibliographiques. Enfin, le docteur Chastan avait déjà travaillé et moi, je commence vraiment à m'y pencher à ce moment-là. Alors d'un point de vue pratique, la thèse, moi j'ai eu de la chance parce que la PH qui s'est occupée de la direction de ma thèse avait l'habitude de diriger des thèses. Du coup, elle était en lien déjà avec une PUPH qui se proposait d'être présidente du jury. Donc c'est vrai que moi, je n'ai pas eu tout ce côté très administratif. Ça s'est fait très facilement. Je rappelais ici rapidement pour les plus jeunes qu'il faut deux PU de sa spécialité, si c'était la psychiatrie. Et il y avait la possibilité d'amener un PU d'une matière un peu différente. Et là, c'était la médecine légale, mais surtout pour l'éthique. Le professeur Moutel. C'est le choix du sujet qui était un sujet qui touchait la médecine, mais finalement pas que. La médecine avec toutes ses ramifications, beaucoup de sociologie, beaucoup d'éthique, la gérontologie, l'anthropologie. Du coup, ce sujet, habituellement, on a l'habitude, quand on voit les thèses, d'avoir des plans qui sont introduction, matériel et méthode, résultats, discussion. Et ben, au début, j'ai essayé de faire ça et ça ne s'y prêtait pas du tout. C'était pas possible. Donc, j'ai continué à faire beaucoup, beaucoup de bibliographie, à lire beaucoup d'articles, beaucoup de livres, aller à des conférences. Là, je cite rapidement des lieux où on n'a pas forcément l'habitude d'aller quand on est interne en médecine. C'était la BIOUM à Paris, la BNF, des sites comme Google Scholar et Cairn Info, qui sont plus des lieux où on fait des sciences humaines plus que des sciences médicales dures. Donc à partir du moment où on a décidé que le plan de la thèse, à travers de nombreuses réunions avec le docteur Chastan, ça ne serait pas introduction, matériel et méthode, etc. On a essayé de trouver un autre plan, trouver une autre genèse de la thèse. Et en fait, on a décidé de dispatcher ce qu'on allait essayer de venir questionner et puis parfois y répondre en trois grandes vignettes cliniques qu'on va voir, que je vais un peu détailler par la suite. On va revenir sur du coup ce cas clinique que j'avais rencontré et qui était un peu à la base de la genèse de cette thèse. Je vais rapidement finir sur des choses un peu plus scolaires par rapport à la thèse. Je voulais essayer d'expliquer que le fait de partir d'un plan un peu qui sortait de l'ordinaire, c'était pas un choix de facilité, ça avait vraiment compliqué la rédaction, parce que c'était toujours compliqué de savoir où on allait, là où d'habitude on met en place une expérience ou un questionnaire et puis qu'on avance un peu facilement ensuite. Là, on a avancé pas à pas, on a revu, on a retravaillé beaucoup de parties pour arriver à cette thèse. Là, c'est quelques petites idées en vrac pour les jeunes qui sont ici. Il y a une chose qui est primordiale, je pourrais me rappeler plus tard, notamment pendant ma soutenance, c'est la bibliographie, il ne faut pas la bâcler. Voilà, les PUPH, c'est des professionnels de la biblio, ils font ça tout le temps. Ils savent repérer une biblio qui est un peu bancale. Et dès qu'on la retouche, il faut passer du temps dessus. Je vous le conseille vivement. Et puis quelques petites idées en vrac comme ça pour vous. Le jour de sa soutenance, il ne faut pas trop se focaliser sur sa présentation. Il faut aussi anticiper un peu les questions qui vont venir, voire les travailler avec les PU quand c'est possible. Et puis, c'était aussi un petit message d'encouragement pour ceux qui sont en train d'écrire leur thèse. On croit qu'on n'y arrive jamais, qu'on n'arrive jamais à la fin, mais tous les ans, il y a des milliers de gens qui y arrivent avec succès. Et il faut pas baisser les bras. En général, ça ne se passe pas trop mal. Voilà, donc pour revenir sur le plan de la thèse, qui est quand même le cœur du sujet ici, on avait décidé du coup de le découper en trois grandes parties, trois vignettes cliniques à la base, et puis après ça nous permettait de partir sur les discussions. La première partie, c'était pour rappeler le sujet de la thèse, c'était d'essayer de trouver des réponses qu'on pouvait apporter à des demandes d'euthanasie et de fin de vie chez des personnes qui n'étaient pas malades, mais qui avaient une certaine lassitude, une démoralisation. Donc, la première vignette, on parle de la dépression de la personne âgée et on met en lien avec la démoralisation et le désespoir. La deuxième partie, que je vais détailler ensuite, on parle de la mort sociale des personnes âgées, d'une certaine exclusion de la vie sociale. Et la troisième partie, on revient un peu plus à ce moment-là sur le monde psychiatrique et notamment qu'est-ce qu'on fait des demandes d'euthanasie pour des gens qui ont des souffrances existentielles, pas nécessairement des souffrances physiques ou des souffrances liées à une pathologie. Alors, bon, c'est un peu long, mais je pense que c'est important je pense que ça illustre vraiment bien la question qui est posée dans cette thèse. C'est le premier cas clinique. Donc de la première partie que je vais vous lire je vais essayer d'être rapide. Donc je suis dans un établissement de psychiatrie dans le Calvados. Il y a une patiente de 94 ans qui est accueillie en fin 2013, qui est veuve depuis une dizaine d'années et qui est placée en EHPAD par la force des choses et puis par ses proches aussi depuis à peu près 5 ans. Madame B n'est plus autonome et surtout la vision et l'ouïe sont très affectées, voire absentes. Elle ne peut plus lire, ni écrire, ni regarder la télévision. L'appareillage auditif n'améliore pas son audition qui ne lui permet plus de communiquer avec son entourage et d'écouter la radio ou la musique. Quel est donc le quotidien de cette femme, ancienne professeure de droit à l'université, boulimique de connaissances et d'instructions, ayant vécu une vie professionnelle, culturelle et familiale exaltante? Elle ne tardera pas à nous le faire savoir dans des entretiens pénibles et difficiles, mais aussi émouvant dans lesquels la lassitude l'emportera sur la vie. Quelle est la vie de cette femme dans un établissement médicalisé, coincée entre son lit et le fauteuil à côté de la fenêtre, d'où elle ne distingue même pas le paysage? Acculée physiquement, mais surtout intellectuellement, elle attend, incapable de voir et d'entendre, elle se nourrit et elle attend le long d'un quotidien désespérant. Sans espoir, Madame B l'est certainement. Elle a été accueillie en service psychiatrique qu'elle aurait voulu se tuer. Pour la première fois de sa vie, dans un moment de désespoir où, suite à l'aboutissement d'un raisonnement logique, elle s'est rendue à la plage distante de quelques centaines de mètres de son établissement et s'est jetée à l'eau. Cette froide mise en scène de sa mort a-t-elle aidé Madame B à passer à l'acte? Dans tous les cas, cette mort est clairement inacceptable, tant pour les proches que pour les soignants. À son grand désarroi, un pêcheur matinal l'a aperçue et est sorti des vagues. Madame B restera plusieurs mois hospitalisée pour passage à l'acte dans le cadre d'un épisode dépressif majeur. Dans un premier temps, son unique préoccupation sera d'être aidée à mourir. Quotidiennement, elle demandera sa piqûre létale, puis l'ajout d'un antidépresseur et l'introduction de différents anxiolytiques laisseront apparaître un mieux-être. Progressivement, la patiente, constatant l'impossibilité des soignants d'accéder à sa demande, finira par se murer dans un silence, silence entendu par le psychiatre comme un renoncement au renoncement. Une fois retournée dans son EHPAD, sans avoir acquiescé, elle attendra sa fin dans une forme de résignation. Donc voilà la rencontre que j'ai faite au moment de débuter la thèse et qui m'avait particulièrement touché. Et c'est à partir de là qu'on a imaginé cette partie cette première partie, donc qui s'organise autour de la vieillesse. La vieillesse, une maladie incurable, point d'interrogation. Je vais là revenir un petit peu pour vous donner l'idée de la trame de la thèse. Je vais essayer d'être rapide pour vous ayez une idée un petit peu de comment on l'a écrit. Donc au départ, je montre aussi que c'est vraiment une thèse qui touche à plusieurs domaines. Ici, au départ, c'est donc la gérontologie, la vieillesse, maladie du XXIe siècle. On a questionné sur le vieillissement de la population, sur un courant aussi qui est né dans les années 70-80, qui a vite été enrayé, mais qui proposait de limiter les soins aux personnes âgées et de positionner un petit peu les gens en fonction de leur utilité par rapport à l'accès à leurs soins. C'est des choses qu'on peut réentendre encore aujourd'hui, hein, malheureusement. Est-ce qu'il existe une éthique de la vieillesse, une éthique spécifique à la vieillesse? On questionnait sur la construction socio-culturelle de la vieillesse. Comment justement, pour s'opposer à l'agisme, on doit combattre l'éthique du jeunisme? Et finalement, une éthique spécifique à la vieillesse, non, elle s'englobe plutôt dans une éthique de la vulnérabilité dont font partie cette tranche de la population qui est plus précaire et plus vulnérable. Donc ça, c'était une partie beaucoup d'éthique où Lévinas, par exemple, je ne me suis pas inspiré de ce qu'avait pu écrire Lévinas. Voilà, ensuite on rentre dans une partie qui est plus psychiatrique sur la dépression de la personne âgée, le concept de démoralisation qui est un concept qui serait une sous-catégorie de la dépression, au même titre que la mélancolie peut l'être, et ben, la démoralisation qui est plutôt une approche psychosociale. Voilà, et ensuite le lien entre démoralisation et désespoir. Alors la deuxième partie sur lequel j'étais parti sur une vignette clinique d'une personne âgée qui n'était pas malade, mais c'était un veuf de 90 ans qui souhaitait rejoindre sa compagne parce qu'il trouvait plus de sens dans son existence. Et du coup ça m'a amené à tourner autour de la notion de mort sociale et d'utilité sociale et de l'individu et de la mort sociale de la personne âgée. Dans le champ sociétal d'aujourd'hui. Donc au départ, le discours sur la mort à l'épreuve du grand âge, là je reviens sur pas mal d'éléments qui renvoient à la vieillesse face à la mort, le discours, la solitude face à la mort, et la précarité psychique dans son ensemble que j'ai ramené ici à l'épreuve du grand âge. Donc là, on était entre l'anthropologie et la gérontologie. Ensuite, j'ai questionné, point de vue un peu sociologique, sur le rapport à la mort en évolution, le fait que le rapport à la mort dans nos sociétés a totalement évolué. On est passé dans notre société occidentale à un rejet de tout ce qui peut mourir, de tout ce qui va mourir, de tout ce qui s'approche de la fin. Et notamment cette mort sociale qui arrive et qui devance la mort définitive. Et enfin, j'ai essayé de mettre ensuite en exergue la mort relationnelle et les mutations de la médecine, c'est-à-dire la fin de la relation en lien avec les évolutions de la médecine clinique, technique, qui met un peu à l'écart tout ce qui est en lien avec la parole, toute la relation. Aujourd'hui, on est beaucoup dans des rapports techniques. Voilà, et la dernière partie, elle est plus centrée sur la fin de vie juridique, avec la législation, que ce soit en France, en Suisse, au Benelux. Je revenais un peu là-dessus. J'avais pris trois grands exemples, c'était la Suisse, le Benelux et l'Oregon aux États-Unis, avec des principes de base qui variaient. L'état actuel des pratiques médicales aussi en fin de vie en France. Donc ça, c'était l'aspect assez juridique. Ensuite, on a travaillé sur les principes de base dans le débat sur l'euthanasie, avec l'autonomie et la dignité, le principe anglo-saxon de l'autonomie, et l'apport de la dignité. Voilà, et enfin, je finis sur le rôle et la place du psychiatre dans cette période-là de fin de vie. Qu'est-ce qu'il peut apporter, comment il peut situer, et puis également, qu'est-ce qui se fait au niveau de fin de vie dans des pathologies psychiatriques. Ça, c'était d'ailleurs des choses qu'on va voir ensuite là. Donc ça, c'était la présentation que je vais faire assez rapidement que j'avais proposé le jour de ma soutenance. Donc, il y a quelque chose qui manquait un peu dans cette approche. C'était souvent, quand on parle de fin de vie, il y a des cas très médiatisés qui sont un peu au départ de la réflexion. Ça manquait un petit peu dans mon travail, donc j'avais voulu partir de cas médiatisés à l'époque de ma soutenance pour pouvoir un petit peu découler sur ce qui se faisait. Donc j'avais pris le cas de Anne Berth, dont vous avez peut-être entendu parler, fin 2017, qui est partie se faire euthanasier en Belgique, et le cas de Marguerite Messin, qui était un peu plus jeune, mais qui rejoignait mieux, peut-être un peu mieux, mon sujet. L'affaire Anne Berth, je reviens rapidement dessus, c'est une Française de 59 ans qui a appris tardivement, elle apprend en 2015 qu'elle a l'atteinte de la maladie de Charcot, et en début 2017, elle demande, elle me fait les démarches pour avoir accès à un suicide médicalement assisté en Suisse. Finalement, devant le prix trop important, elle s'oriente vers la Belgique où son dossier sera accepté. Je veux revenir rapidement sur la sédation terminale que je vais passer ici. Elle était partie, on pourra y revenir s'il y a des questions. Elle était partie, en Belgique, procéder à un suicide médicalement assisté. Je revenais, peut-être que ça pourrait être intéressant, et la base de questions pour tout à l'heure ici. Donc, je vais lire rapidement. C'est indiqué pour des patients qui sont capables et conscients, qui expriment une souffrance physique et psychique constante et insupportable, qui ne peut être apaisée dans le cadre d'une situation médicale sans issue, résultant d'une infection accidentelle ou d'une pathologie grave et incurable. Donc la loi trouve, c'était une petite nuance, la loi ouvre un droit à la demande d'euthanasie et pas à l'euthanasie. Donc c'est au patient de trouver un médecin qui accédera à sa demande, et le médecin, lui, doit faire attention que les critères sont bien présents. Mais il a le droit de refuser. Ce n'est pas limité aux malades en phase terminale. Ça peut également concerner des personnes qui sont atteintes de maladies chroniques et dont le décès n'est pas prévisible à brève échéance. Des choses importantes sur lesquelles on pourra discuter. Et la Belgique autorise l'euthanasie, le suicide médicalement assisté, en cas de souffrance physique ou psychique. Voilà, c'est une des grandes. C'est d'ailleurs ce qui avait amené à la discussion. C'est que là, Madame Berthe ne présentait pas de souffrance physique intolérable, puisqu'elle était au début de sa pathologie. Elle était surtout dans un phénomène d'anticipation de ses souffrances physiques, et qui amenait, elle, une grande détresse psychique sur son avenir. Et donc, c'est ces détresses psychiques qui l'ont amenée à faire cette demande et cet acte. Il y avait également l'idée que... Malheureusement, les soins palliatifs en France sont peu développés pour l'instant, en espérant que ça le sera plus, et qu'il y a aujourd'hui quasiment que 4000 lits pour 200 000 mourants. En soins palliatifs, donc on est vraiment dans les jours qui précèdent. C'était une de ses fortes appréhensions, c'est qu'elle ne soit pas prise en charge de manière efficace et soulageante. Qui l'a poussé à anticiper, c'est ce qu'elle raconte. voilà, qui l'a poussé à anticiper l'euthanasie. Et voilà, je rappelais rapidement qu'il n'y avait pas de conduite ou de troubles dépressifs. Voilà, je revenais également sur les principes, mais sur lesquels on pourra revenir aussi, d'autonomie anglo-saxonne et d'autodétermination, qui sont à la base des législations qui permettent aujourd'hui de pouvoir accéder à l'euthanasie. Madame Marguerite Messin, c'est l'autre cas sur lequel j'ai médiatique, sur lequel j'étais basé, qui est passé un peu plus inaperçu, c'était 10 ans avant, mais qui reflète assez bien, je trouve, le sujet. C'était une patiente de 82 ans, veuve, ancienne directrice d'établissement de soins esthétiques. En 2003, elle devient veuve. Son mari décède à la suite d'un cancer en soins palliatifs, dont d'ailleurs elle ne gardait pas un grand souvenir. En 2006, elle subit un accident vasculaire sans séquelles, mais qui la plonge dans la terreur d'être diminuée. C'est à ce moment-là que se met en place chez elle l'idée de passer à l'acte et de demander un suicide assisté spontanément. Elle n'a pas de pathologie somatique. Elle dit être lasse de vivre et considère sa vie accomplie et finie. Début 2017, elle fait appel à l'association suisse Dignitas pour mettre fin à ses jours par un suicide médicalement assisté. Elle est reçue une première fois et puis finalement son dossier est accepté et elle part en novembre 2007 à Zurich, assistée d'un médecin légiste et d'un policier qui font les dernières vérifications et qui procède à son suicide médicalement assisté. L'autodélivrance en Suisse, comme il est nommé là-bas, il faut qu'il passe 5 conditions. Il faut être membre de l'association, donc ça se fait quand même assez rapidement. Il faut être domicilié en Suisse, avoir son discernement, faire une demande manuscrite ou par acte notarié avec un dossier médical complet, soit être atteint d'une maladie incurable ou d'une invalidité importante ou avoir des souffrances intolérables. Enfin, c'est soit l'un, soit l'autre. Voilà. Dignitas font payer les étrangers, donc on n'est plus obligé à ce moment-là d'être domicilié en Suisse. Là, je revenais un petit peu sur les discussions, sur les origines et les enjeux de la demande. Donc il y avait le principe d'autodétermination. Il y avait effectivement chez Madame Messin, probablement cette ancienne directrice de soins esthétiques, certains dictats de l'éthique du jeunisme, peut-être. Et du bien vieillir. Il y avait également une détresse existentielle avec la perte d'espoir, de but et de sens dans la vie. Voilà. Une crise du non-sens, pas mal de choses qui renvoyaient au sujet de ma thèse. Et je finissais ma présentation pour revenir sur des choses plus spécifiques. Je vais dire vraiment rapidement là, j'étais tombé sur une étude qui m'avait beaucoup perturbé. Il y avait cette étude de 2016 qui identifiait 66 patients qui présentaient des pathologies uniquement psychiatriques, type schizophrénie, dépression, gros troubles bipolaires, gros troubles du comportement, troubles de la personnalité. Qui étaient souvent des individus socialement marginalisés ou très isolés, qui avaient eu accès, qui avaient demandé un accès au suicide médicalement assisté et dont la demande avait été acceptée. Voilà. Donc l'ONU, à cette époque, depuis là, ces derniers temps, s'inquiète énormément de l'augmentation massive de l'euthanasie au Benelux depuis 2010. Donc ça devient une pratique qui s'amplifie, qui se multiplie. Le CCNE était sorti aussi à ce moment-là, parler d'une dérive du tout euthanasique par une interprétation de plus en plus large des termes législatifs comme celui de souffrance insupportable. Ce qu'on a pu voir là. Voilà. La conclusion que j'avais posée à ce moment-là, c'était de développer effectivement les soins palliatifs pour éviter certaines demandes qui sont de l'ordre de l'anticipation des souffrances. La place du psychiatre dans ces demandes, à quel moment remettre du sens, dégager du sens dans la demande, pouvoir être entendu, pouvoir discuter et développer les angoisses et l'appréhension de ces moments de vulnérabilité, ça désenclencherait pas une grande part des demandes. Et puis, j'avais aussi noté que l'Association psychiatrique américaine déclarait qu'un psychiatre ne peut pas ni ne doit assister au suicide de son patient par rapport à l'étude belge. Voilà. Merci de votre attention.